Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir et merci d'être à l'écoute de votre magazine. Nous parlons aujourd'hui du phénomène point sexuellement transmissible dans nos universités. Comment lutter contre cela? Polydor Tangeli, secrétaire exécutif du groupe Mossala, est notre invité aujourd'hui. Polydor, bonjour.
Les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse au phénomène point sexuellement transmissible. Vous avez des témoignages, vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces phénomènes. Composez déjà le 085 42 11 547 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Un tribunal contre les crimes financiers en République démocratique du Congo. On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec Maître Ruffin Louko Moussoubao, juriste et chercheur en droit. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert, n'attendez pas les dernières minutes, appelez déjà au 085 42 11 547. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Paul Badianyama à la mise en onde, Benjamin Moudoumbi assure la coordination et la réalisation de cette émission et merci à la grande équipe qui s'occupe de Multimédia de contribuer à la réalisation de cette émission. Au micro, jeudi, Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Eh oui, encore une fois, bienvenue dans votre émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Aujourd'hui, nous allons parler des points sexuellement transmissibles. Eh bien, en République démocratique du Congo, de nombreuses universités publiques et privées font face à une forme de corruption dénommée phénomène point sexuellement transmissible. L'enseignant exige à l'étudiante des faveurs sexuelles en échange des meilleures cotes pour qu'elle passe en classe supérieure ou obtienne son diplôme. Face au harcèlement, au chantage, à la peur d'échouer, certaines étudiantes finissent par céder leur corps. Parfois, l'initiative vient de certaines d'entre elles qui misent sur leur beauté pour réussir. Cette pratique qui mêle abus de pouvoir et exploitation compromet gravement l'avenir du système éducatif congolais. Par ailleurs, les universités deviennent des espaces favorables à la transmission favorable aux maladies sexuellement transmissibles. Alors comment lutter efficacement contre la corruption sexuelle dans nos milieux universitaires et quels sont les effets, l'incidence sur la qualité de l'enseignement dans notre pays? On en parle avec notre invité Polydor Tangeli qui est psychologue et secrétaire exécutif du groupe Mossala. Polydor Tangeli, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission.
Le sentiment est partagé puisque la radio Okapi, près de 10 ans déjà, plus de 10 ans d'ailleurs.
Plus de 10 ans de collaboration.
La consultance à la radio Okapi. C'est un motif de fierté de voir comment la radio Okapi nous a fidélisés et tel est le cas, j'imagine, pour les auditeurs.
Les points sexuellement transmissibles, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle, c'est depuis plusieurs années. Alors d'après vous, quelle est l'ampleur de ces phénomènes?
Ce phénomène a pris de plus en plus de l'ampleur depuis que l'enseignement a cessé d'être un enseignement élitiste et est devenu un enseignement populaire, ouvert à tout le monde, au nom de du droit qu'a tout le monde à avoir l'éducation. Mais cependant, on constate que l'aspect du nivellement, tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université, et tout le monde n'est pas fait pour être docteur licencié, tout ça. Et lorsque cet aspect des choses a échappé au bon soin de l'organisateur, ça fait qu'aujourd'hui, l'ampleur ne fait qu'augmenter. Lorsqu'on essaye de faire une analyse rétrospective d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, donc il y a vraiment une dégradation importante en termes d'ampleur.
Malgré qu'on en parle, on pensait que le phénomène allait diminuer, mais on a l'impression que ça s'accentue.
Oui, exactement. Le problème s'accentue puisque, à mon humble avis, on n'en a pas fait une approche holistique. Et moi, en recevant cette invitation, j'ai eu l'idée de mettre en évidence la dimension psychologique de ce phénomène, qui est un phénomène multidisciplinaire, interdisciplinaire, si je pouvais le dire, mais pour lequel je pense que l'aspect psychologique joue énormément. Et là, c'est la notion du fond psychologique.
Mais comment est-ce que vous expliquez un parent, un enseignant qui est parent, demander à une fille qui a l'âge même de sa propre fille à la maison, c'est exactement ça. Lui accorder des faveurs sexuelles.
Le fond psychologique de ceux qui sont acteurs dans le système éducatif, il est de quelle nature? Au fait, le fond psychologique, c'est la constitution de l'être qui est en train d'exercer une activité, puisqu'ici nous sommes dans une activité d'apprentissage, une activité d'enseignement, qui est une activité professionnelle. Mais on devait tenir compte du fond psychologique, de ce qu'est cette personne, de son être, avant de l'employer.
Donc voilà. Cela veut dire aujourd'hui, que ces enseignants-là sont déséquilibrés.
Effectivement, on est en face de personnes qui ont un fond psychologique altéré. Aujourd'hui, on peut identifier parmi les professeurs d'université ceux dont la santé mentale laisse à désirer. Le fond psychologique est problématique. On a des enseignants qui sont dans une situation d'inconscience et qui ne bénéficient pas d'un accompagnement. On a des enseignants.
Donc ils sont malades.
Ils sont malades. On a des enseignants qui ont des problèmes de sentiments et d'émotions malsains, qui sont tellement malsains, mais qui se retrouvent là comme professeurs et de surcroît professeurs ordinaires. Voilà. Alors, on risquerait de me reprocher de n'avoir qu'un regard déséquilibré, disproportionné vers l'enseignant. Mais aussi, qui vient à l'université comme étudiant? Il a quel fond? Il a quel bagage psychologique qui puisse lui permettre d'affronter
ce genre de sollicitations?
Parce
que ça semble que l'initiative ne vient pas toujours des enseignants.
Mais oui, j'évoque le deuxième aspect.
Qui viennent les provoquer.
Exactement. Il a quel fond psychologique? Mais il arrive à provoquer pourquoi? Puisqu'il n'a pas de consistance dans son fond psychologique.
Même sur le plan intellectuel.
Intellectuel, psychologiquement.
Elle est faible.
Alors, on se rend compte dans un milieu tel que l'université devient un fourre-tout où des faiblards psychologiquement, des personnes au fond. Je tiens en compte tous les autres facteurs qui peuvent expliquer, socio-économiques, ainsi de suite, mais je mets en évidence le fond psychologique où c'est des faiblards, des personnes qui ne sont pas à leur endroit, qui font la loi, dictée par leur faiblesse. Et là, puisqu'il s'agit des interactions, la loi de l'offre et de la demande intervient. Voilà la dimension économique.
Mais il semble que certaines filles cèdent parce qu'elles voient, je ne cède pas, je vais échouer, les études coûtent cher, les parents vont encore dépenser.
C'est une faiblesse.
Pour une année de plus.
C'est une faiblesse.
C'est une faiblesse.
Accepter l'échec est une valeur. Voilà pourquoi j'évoque la notion du fond psychologique. Comment est-il constitué? Nous avons vu des personnes aujourd'hui qui ont échoué, qui n'avaient pas de bonnes cotes, mais aujourd'hui, ils font partie de l'excellence. Donc l'échec ne peut pas justifier le recours au point sexuellement transmissible. Donc, la notion du fond psychologique explique de manière largement couverte le phénomène des points sexuellement transmissibles.
Alors comment opèrent généralement ces prédateurs, ces enseignants prédateurs?
Comment
est-ce qu'ils opèrent pour captiver
nous sommes dans une émission pédagogique, on dit en lingala attaquer les côtés les plus petits.
Voilà.
Donc, on identifie la faiblesse
de l'étudiante.
Et on utilise le pouvoir que l'on a abusivement.
Oui.
Vous voyez, on utilise le pouvoir que l'on a abusivement pour attraper la proie. Pourquoi? Puisqu'on est inconscient.
On y recourt au chantage.
Effectivement, on est inconscient. Oubliant que parmi les étudiants, certains peuvent être les amis de vos enfants. Et je connais un professeur dont j'étais le nom, qui a procédé à ce phénomène. Et au bout des comptes, c'est un ami... C'est le fils d'un ami à son père, le fils d'un ami à son père qui a eu à lui payer les études. Voilà l'inconscience.
La fille.
Il va vers la fille, il pose le problème jusqu'à faire échouer la fille, mais après vérification, il se rend compte que cet enfant est l'enfant de l'ami à son père.
Okay.
C'est-à-dire les parents
du professeur
et de l'enfant qui étaient les Benjamins de la famille,
oui,
sont des amis. Et que ce sont le papa de l'étudiant a eu à prendre en charge cet étudiant.
Oh là là.
Voilà. Lorsqu'on pose un acte et qu'on n'analyse pas les éventualités possibles, on est plongé par la faiblesse des émotions qu'on affiche. Donc, ça pose problème. Donc, au-delà des aspects socio-économiques, au-delà des problèmes culturels et anthropologiques, il y a cet aspect de fond psychologique dont il faut tenir compte et qui explique la dépravation de mœurs dans beaucoup de secteurs professionnels en République démocratique du Congo.
Oui. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de points sexuellement transmissibles. Appelez-nous pour intervenir. Appelez au 085 42 11 545. Émile Seou, vous êtes à Kananga. Bonjour. Bonjour Émile, depuis Kananga, merci d'ouvrir votre micro. Nous parlons du phénomène côte sexuellement transmissible dans nos universités. Comment lutter contre ces phénomènes? Émile Seou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Effectivement, je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, on vous capte 5 sur 5.
Oui, vis-à-vis du message passé sur les autres, sur la plateforme. Là, c'est devenu comme une pandémie actuellement dans notre pays. Avant, c'est la transmission dans les univers. Comme une pandémie. Je n'ai pas nécessairement une préoccupation, mais j'ai des mesures préventives pour m'aliter maintenant contre la pandémie. De mon point de vue, je vais mettre des choses de faire renforcer la sensibilisation et l'éducation. Organiser des séminaires obligatoires sur les filles professionnelles. Considérer comme les premiers formateurs. Cela pourra peut-être substituer cette pandémie que j'ai pareil qui est en train. Deuxième des choses, peut-être des cahiers des mécanismes de notation sur. Donc, les mécanismes de notation, les mécanismes qui sont sûrs. Comment cela persiste? Donc, on doit mettre en place une lutte confidentielle de numéro vert pour des comptes anonymes. Quand on a des comme ça dans les universités, Ça s'est bien fait à travers des
Bon, là, la communication se détériore. On a quand même retenu votre idée. Vous dites que c'est devenu une pandémie, ce phénomène, et qu'il faut recourir à la sensibilisation et puis mettre en place des mécanismes de dénonciation, notamment un numéro vert par lequel les étudiants peuvent appeler pour dénoncer cela. Merci. Dieudonné Tshilombo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour également à tous les auditeurs et auditrices de la radio.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le phénomène point sexuellement transmissible?
Bon, concernant le phénomène point sexuellement transmissible, pour moi, j'aurais souhaité à ce que les gouvernements, surtout dans les ministères de l'éducation, qu'on puisse avoir un œil ouvert pour lutter efficacement contre cet fléau, qui ravage vraiment les filles dans les milieux universitaires. Donc il faut appliquer vraiment les sanctions sévères contre les enseignants fautifs et aussi mettre en place des moyens, comme j'ai entendu, des numéros verts pour dénoncer et sécuriser, donc d'une façon anonyme, les filles qui peuvent dénoncer ces problèmes-là, parce que dans les milieux étudiantiens, les professeurs profitent les points faibles des filles tels que vous avez dénoncé là, et on arrive à faire ce qui n'est pas bon selon l'éducation. Vous pouvez vous rendre compte que la fille arrive à décrocher même les diplômes de licence, mais il ne sait même pas comment écrire une phrase simple. Donc tout ça, la cause principale, c'est toujours les points sexuellement transmissibles. Alors j'avais une question, messieurs les journalistes. Alors, quelles mesures concrètes les autorités universitaires prennent-elles aujourd'hui pour protéger les étudiants et sanctionner les auteurs de ces pratiques? Parce qu'il y a dans des universités comme ça, on arrive à dénoncer, mais vous allez voir toujours les mêmes assistants, les mêmes CT, les mêmes professeurs qui avaient causé le problème des abus sexuels là, en train de dispenser toujours les cours, en train de se promener à l'air libre aussi longtemps qu'il y a des cas comme ça, et on a même dénoncé, même à la faculté, quelqu'un part, il dénonce, mais il n'y a aucune sanction. Alors moi, j'aimerais que les autorités académiques puissent nous dire clairement qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ces cas.
Bien, merci beaucoup. Merci Dieudonné. Merci Dieudonné Tshilombo, on a compris. On va accueillir bienvenue Kikala depuis Kikwit. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour.
Oui, quelle est votre question? Bienvenue.
Oui, j'ai vu le sujet est tellement intéressant. C'est la situation réelle que nous vivons dans nos milieux universitaires respectifs. Mais je me dis, en suivant les analyses ou le point de vue des uns et des autres, peut-être leurs analyses sont un peu penchées. Dans le cas d'espèce, si on ne fait pas un diagnostic profond, je crois, on ne peut aboutir à de bonnes conclusions, à de bons résultats. Aujourd'hui, il faut se dire, ce phénomène est favorisé, que ce soit de la part des corps enseignants, tout comme des étudiantes elles-mêmes. Si les gens n'arrivent pas à déceler aussi la faiblesse des filles que les parents sont tentés d'envoyer dans les universités pour étudier, je crois, à mon sens, ça servirait à rien. Il arrive des fois aussi que les étudiants elles-mêmes, mettent les professeurs dans une situation où le professeur ne pouvait pas, s'il n'a pas une forte moralité, se tenir. Je crois qu'on allait que les corps...
Bien, désolé, il est parti. Et voilà, il disait on ne peut pas seulement condamner les enseignants, les filles elles-mêmes sont également à la base de ce phénomène. Honoré Tshibwaboa, depuis Mbujimayi. Bonjour. Bien, désolé, ils sont tous partis. Polydor Tangeli.
Au fait, c'est très intéressant de suivre les différentes contributions des uns et des autres. Et lorsque vous le suivez, vous allez vous rendre compte que il y a l'erreur de départ à constater à l'entrée dans le système. Aujourd'hui, qui devient étudiant? Qui devient professeur? Comment devient-on professeur? Comment on les recrute? On a juste besoin de quelqu'un qui a une distinction.
Ce sont pas... Sans tenir compte des valeurs.
Non, sans tenir compte des valeurs. Est-ce que la personne qui vient demander d'entrer dans le système
est-elle éducatif, d'une bonne moralité?
Oui. A-t-elle été confrontée à une certaine échelle des valeurs pour détecter qui il est et savoir s'il ne sera pas un produit nocif, un virus dans le système? C'est à ce niveau que se situe le problème. Puisque si on devait dénicher clairement qui est qui avant d'entrer dans les systèmes, la pandémie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui, le fléau n'atteindrait pas la proportionnalité que nous avons aujourd'hui. Donc,
alors, Émile dit que la solution, c'est de sensibiliser davantage les filles.
Oui, effectivement, puisqu'on parle du gouvernement, c'est le gouvernement qui s'occupe dès l'entrée. Il fallait qu'il y ait du sérieux à ces niveaux. Que les tests d'admission soient effectivement des tests d'admission, puisque c'est un dispositif qui neutralise les effets corrosifs que nous déplorons aujourd'hui.
Dès l'entrée.
Durant la prestation, puisqu'on a déjà commis l'erreur, et c'est le cas dans lequel nous sommes. En tout cas, à mon humble avis, nous assistons devant un problème de manque, l'absence de sanctions. D'abord, il n'y a pas un suivi systématique.
Hein? Et il semble que les filles aussi ne dénoncent pas.
Oui, elles ne dénoncent pas parce qu'elles sont faibles psychologiquement. Il y a des personnes qui savent affronter d'autres personnes malgré leur carrure, puisque cela relève de leurs droits, oui. Cela relève de leur intimité, voyez, et qui peuvent dénoncer. D'où il faut une sensibilisation et des professeurs et des élèves.
Alors les filles peuvent dénoncer auprès de qui?
Bon, ce problème fait appel à l'intervention non seulement des autorités académiques, des autorités gouvernementales, mais aussi de la société civile.
Elles peuvent en parler à leurs parents, par exemple.
Ils peuvent en parler aux structures de droits de l'homme, qui peuvent dénoncer, qui peuvent assurer un accompagnement juridique et psychologique de ces enfants qui sont affaiblis, mais aussi assurer l'accompagnement psychologique et juridique des professeurs qui sont violentés par toutes ces filles et les amènent à agir dans un sens au contre-cœur.
Il semble que dans certaines universités, les filles s'habillent mal. Est-ce que vous confirmez cela?
Ben, tout ça est aussi le résultat de manque de censure. C'est un résultat de manque de censure. Aujourd'hui, bon, nous sommes dans un monde tellement libéral que quand on sait maîtriser ses émotions, l'habillement ne peut pas justifier
de tels comportements.
Non, oui. Ça ne peut pas justifier.
Ça peut pas justifier.
Sinon, on verrait ça à plus de 100% en Europe, où l'habillement laisse à désirer. Donc, c'est tout simplement un problème de la consistance au niveau du fond psychologique.
D'accord. Et alors, quel mécanisme de dénonciation on peut mettre en place?
Bon, il a été évoqué la notion de numéro vert, oui, mais aussi la notion d'accompagnement psychologique au sein. Les services de guidance des universités devaient comprendre les défis auxquels sont butés surtout les débutants. Oui, surtout les débutants.
Les profs faciles, celles qui sont en première année.
Oui, en première année, on vous mystifie les choses. On dit, ben, ici, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas faire ça.
Oui.
Et au niveau de deuxième... Bon, moi, je suis de l'ancien système. En dernière année, c'est rare que vous trouviez des choses comme ça, parce qu'on connaît les systèmes, on sait
déjà,
comment
voilà.
On fait. Mais ce sont les débutants étant faibles. Donc, les services de guidance devaient assurer un accompagnement. Aujourd'hui, c'est juste des caisses d'enregistrement des candidatures des étudiants.
Des étudiants.
Alors qu'ils devaient assurer un accompagnement pour permettre de doter aux nouveaux étudiants un fonds psychologique consistant qui leur permette de rencontrer les défis et de les surmonter à bon escient. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Et leur dire auprès de qui aller se plaindre en cas d'harcèlement.
Voilà. Donc, mettre en place un dispositif d'écoute. Notamment, il y a les numéros verts, mais aussi garantir l'anonymat. Garantir l'anonymat, donc être professionnel dans la façon de procéder. Mais lorsqu'on laisse cette régulation seulement à l'intérieur de l'université, ça n'aura pas produit des bons résultats. Pourquoi? Puisqu'il y a les carcans administratifs. Le responsable de la guidance...
Les loups ne se mangent pas.
Les loups ne se mangent pas. Et il y a les carcans administratifs. Oui. C'est peut-être le responsable de la faculté qui a fait ça. Et lui, c'est un collaborateur. Donc, il ne sait pas aller au-delà. Peut-être c'est le recteur lui-même, tout ça. Voilà. Mais il faut impliquer les partenaires extérieurs. Voilà pourquoi nous devons avoir aussi des ONG qui s'occupe de la vie au niveau universitaire. On s'occupe seulement des enfants de la rue. Il y a une prolifération des structures de droits de l'homme qui s'occupent des questions de gouvernance, des questions... Mais ça, c'est un fléau. Tout le monde l'a qualifié de pandémie. Qu'on voit aussi des syndicats, des professeurs d'université,
oui,
qui font de ça leur préoccupation, des ONG de droits de l'homme qui agissent en toute indépendance.
Parce qu'il y a déjà eu des enseignants qui ont été sanctionnés pour ce genre de faits.
Bon, je suis mal placé pour... mais je pense qu'il doit y en avoir, et ici n'est pas l'occasion de pouvoir les citer. Mais ça représente quoi par rapport au problème?
Par rapport, c'est disproportionnel. À l'ampleur du phénomène.
Donc, oui, le silence est un silence qui donne libre cours même à la question. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il aura fallu vraiment jeter un regard très critique sur la question.
Alors déjà en passant, j'invite les étudiantes qui nous écoutent en ce moment. Vous avez été victime de ce phénomène où vous avez été harcelé par un enseignant. Appelez-nous pour témoigner au 085 42 11 545. Honoré Tchibouaboua, vous êtes en Boujimaï, bonjour. Honoré Tchibouaboua, bonjour. Allô?
Yep. Bonjour.
Bonjour Honoré, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Et par rapport au sujet, je voulais dire qu'il est important de faire un vrai diagnostic. Parce que aujourd'hui, monsieur Jody, il y a des universités, institutions supérieures. Une fois vous y arrivez, on va vous parler d'un phénomène de réalité académique. Mais quand vous entrez en fond, vous savez que ce qu'on appelle réalité académique, ce sont des antivalères. Mais le diagnostic, moi, je l'ai fait à deux niveaux. Au premier niveau, c'est au niveau du ministère. Et regardez comment on est en train de nommer les gestionnaires des institutions supérieures et universitaires. Quelles sont les conditions? On nomme n'importe qui parce qu'il appartient à tel ou tel. Bon, on ne regarde même pas son parcours, quelqu'un qui a évolué dans ça, et puis quand il ira à la tête d'une université, mais c'est aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il va lutter contre un phénomène comme ça? Mais au niveau des comités de gestion, vraiment c'est grave. Moi, je connais une sœur qui était victime de ce phénomène, mais elle ne savait pas dénoncer parce qu'elle avait un père, parce que si elle dénonçait, il n'y aurait même pas de sanctions. Tout ça.
Et comment vous étiez au courant de cela? C'est parce que la fille était venue se plaindre auprès de vous et elle vous en a parlé?
Moi, elle était notre camarade.
Oui.
Je vous donne l'exemple de notre université, celle de Moujimaï. C'est un phénomène qui est rénové. Mais lorsque le nouveau recteur est venu, je n'ai pas la publicité, mais on en parle presque plus. Pourquoi? Parce qu'il a mis des mérites pour dénoncer les phénomènes. Il a sanctionné les auteurs. Donc, là, tout le monde a peur. Et les étudiants, et les professeurs, tout le monde a peur. Il dit, en tout cas, si on entend, je serai sanctionné. Mais il y a des universités, ça fait 3 ans, vous n'entendez même pas qu'il y a aucune sanction. Et vous pensez que dans cette université-là, tout va bien, M. Jody? Non, c'est une faiblesse des comités de gestion. Les comités de gestion doivent prendre ses responsabilités pour sanctionner les
antivalères. Merci beaucoup, Honoré. Merci Honoré Tchibouaboua depuis Mboujimaï.
Merci.
Voilà, qui nous a donné l'exemple dans son université. Il y a eu des cas pareils, mais ouais, le comité de gestion a sanctionné. Et puis voilà, la discipline est revenue et tout le monde a peur. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro, cher Ismaël, depuis la ville de Lubumbashi. Pour participer à cette émission, le standard est ouvert. 085 42 11 547. Ismaël, bonjour. Bonjour Ismaël Mompoy. Allô? Ben, je pense qu'il y a, un souci au niveau de la connexion. On va le recevoir dans quelques instants. Polydor Tanguely, qu'est-ce que vous, votre réaction par rapport à...
Je voulais ici évoquer ce qui n'a pas été dit par beaucoup d'intervenants. C'est quand vous comparez les niveaux d'enseignement, c'est vrai que les faiblesses sont à tous les niveaux. Le niveau élémentaire, la pédophilie est possible, mais les taux est faible. Lorsque vous venez aussi à l'école secondaire, on a affaire à des adolescents plutôt, mais les taux est aussi faible par rapport au niveau universitaire. Le système d'évaluation au niveau de l'université étale un matelas pour les points sexuellement transmissibles. Il n'y a pas un dispositif d'inspection.
Généralement, c'est pendant la période de la session que le phénomène prend de l'ampleur.
Oui. L'enseignant du niveau élémentaire et du niveau secondaire est surveillé. Il est surveillé. Mais celui de l'université, son évaluation est surveillée par qui? On a fait de lui un maître, un omniscient, un omnipotent, et il se permet tout. Il y a des universités où on évalue par encodage. Ça diminue, ça objective même le processus d'évaluation. Je crois que c'est parmi les éléments sur lesquels il fallait jouer. Mais il y a des universités où, à la fin de l'année, les étudiants évaluent leurs enseignants à l'anonymat. Et vous revenez l'année prochaine sur base de la cotation qui est la vôtre par les étudiants,
sur le plan académique et sur le plan moralité.
Moralité. Vous êtes bon sur le plan de la science, mais moi, j'ai constaté ceci, je vous cote et ça détermine votre avenir dans l'université. Donc, voilà comment on peut assainir, si on veut bien faire les choses, cette question en milieu universitaire.
Bon, si par exemple un enseignant harcèle une fille, quelles sont les preuves qu'elle peut garder? Parce que il suffit pas d'aller dénoncer que tel professeur est en train de me harceler. Il faut des preuves.
Mais il faut de l'intelligence, il y a dans le milieu universitaire. Lorsque vous voyez la personne venir, vous tendre les pièges, mais mettez-les à l'écoute, par exemple.
À partir du téléphone.
Voilà pourquoi nous parlons de la consistance du fond psychologique. Est-ce que les gens ont un matal engagé pour affronter ce genre de combat? Non. On a fait un recrutement des faibles et lorsque des faibles se rencontrent, il y a un affaiblissement du système. Aujourd'hui, est-ce qu'un enfant est capable de mettre à l'écoute son professeur pour recueillir une preuve et aller jusqu'au tribunal pour que l'enseignant soit sanctionné?
Oui, mais je pense qu'avec les téléphones aujourd'hui, c'est
pas facile. Mais voilà.
On peut l'enregistrer.
On peut l'enregistrer. Puisque vous avez fait votre examen, vous avez bien travaillé, mais vous manquez des cotes. Voilà une main tendue, un appel des pieds.
Voilà.
Pour que vous, quand vous alliez
le voir
dans son bureau, voilà. Il vous pose le point. Alors, soyez outillés.
Ou soit il vous envoie des SMS, de messages
soyez
par WhatsApp.
Outillés.
On peut les garder.
Oui. Alors, la sensibilisation ne devra pas être seulement une sensibilisation des étudiants sur des notions de moralité, mais c'est aussi sur des notions de sécurité individuelle, des notions d'obtention de preuves. Voilà. Et les ONG de droits de l'homme ont un champ d'intervention. Je rêve d'avoir une ONG des droits de l'homme qui
s'occupe. Mais au niveau du groupe Moussa, là, vous vous occupez du travail, psychologie du travail, est-ce que vous prenez en charge ces genres de situations?
Ben exactement, si j'ai bien voulu évoquer cette question, c'est puisque nous, comme psychologues, nous assurons à ceux qui viennent vers nous un accompagnement psychologique, un mentorat pour relever les seuils des consistances du fond psychologique des personnes qui sont en milieu professionnel et se retrouver
en milieu universitaire. Donc vous pouvez avoir des séances de counseling avec ces
exactement c'est,
les
c'est,
victimes.
Oui exactement c'est nous sommes un groupe d'expertise en intervention psychosociale. Donc nous assurons ce renforcement des capacités sur des questions qui peuvent expliquer les faiblesses ou encore les menaces de la vie psychique d'un individu en milieu professionnel, et nous sommes mieux placés pour ce genre de questions.
Bien, quelqu'un a proposé tout à l'heure qu'il y ait des sanctions sévères, mettre en place des mesures pour protéger les étudiants. Alors, vous avez Honoré à parler des sanctions, comme à l'Université officielle de Mujama, il nous dit que depuis que le nouveau comité de gestion est là, en tout cas, il y a des sanctions et tout le monde a peur, que ce soit les enseignants ou les étudiantes. Il faut faire attention.
Ça tourne autour de la même question. Les sanctions sont là. Il y a une réglementation nationale en matière d'enseignement supérieur. Et ce genre de comportement a un barème de sanctions concernées. Mais c'est au niveau de l'application où on n'a pas les personnes qu'il faut. On n'a pas de personnes qui ont peur. Quelqu'un qui a peur de sanctionner un dépravé, pourquoi? Puisqu'il est le cousin de celui qui l'a placé là-bas.
Voilà.
Il n'a pas ce courage.
Ça affaiblit le système.
Il faut des personnes fortes plutôt, oui. Des personnes fortes qui savent s'assumer, qui ont un fond psychologique consistant et qui sont conscients de ce qu'ils veulent faire pour le bonheur du Congo.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Elvis Londo, là, vous êtes à Kinshasa. Blaise Saïd à Kisangani, Tagamile à Bounia et Gaston à Kinshasa. Alors, soyez brefs dans vos interventions. Merci d'ouvrir vos micros pour ne pas perdre beaucoup de temps. Elvis Londo, là, de Kin. Bonjour et quelle est votre question? Elvis, vous êtes à Kin, merci d'ouvrir votre micro pour ne pas perdre beaucoup de temps. Vous voulez participer à cette émission, nous parlons des points sexuellement transmissibles. Composez les 085 42 11 547. Elvis Londola de Kinshasa, bonjour. Elvis, vous êtes là?
Hello? Oui, je suis là.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement?
Oui, c'est parce que je voulais citer ce moment-là où notre invité a voulu dire. C'est un problème de l'équipe dirigeante, c'est-à-dire celle qui est disposée à sanctionner. Parce que ces cas, nous les retrouvons régulièrement, nous les retrouvions beaucoup. Mais ce qui manque à ce sujet, hein, l'équipe qui dirige, c'est lui à qui prend la dernière décision. C'est-à-dire, si un assistant ou un professeur a se retrouve dans ce délit, quel est le message? Allô?
Bon, il y a beaucoup de bruit là où vous êtes là. Merci de vous éloigner un tout petit peu de ces milieux-là. Quelle est la question alors? Ben, je pense qu'il est parti. Blaise Saïd, vous êtes à Kisangani, bonjour. Merci d'ouvrir rapidement votre micro, Blaise Saïdi, à tout bout. Voilà, il y a un souci au niveau de la connexion, donc ils sont plus là. Polydor Tangeli.
Voilà, donc j'ai parlé de l'objectivation du système d'évaluation. Il faut qu'on permette aux étudiants de se prononcer.
Mais les étudiants doivent aussi briser les silences parce qu'elles n'aiment pas en parler.
Non, mais est-ce qu'on leur en a offert les facilités? Je vous ai dit que sous d'autres cieux, on revient à une université comme enseignant que si on a réussi à l'évaluation.
Est-ce qu'il y a des universités ici qui les font, qui évaluent les enseignants?
Je ne sais pas.
Qui permettent aux étudiants, voilà, d'évaluer tel ou tel autre enseignant.
Je ne sais pas. Ouais. Voilà. Alors, au-delà de ça, nous avons dit, on tend déjà vers la fin, donc, à l'entrée, il faut vraiment une belle censure et durant aussi. Mais qu'on sache aussi sanctionner les complices, ceux qui gardent silence de tous ces phénomènes. Puisqu'au fait, le niveau de responsabilité est gouverné. La question s'est passée dans une promotion, dans une salle de classe. Il y a un niveau de responsabilité, il y a la faculté, il y a l'université. Il faut qu'il y ait aussi des sanctions saccadées qui touchent aux différents niveaux des responsabilité au sein de l'université. Donc, à mon humble avis, ça fait appel non seulement aux sanctions, mais aussi à la conscience de plusieurs autres intervenants. Il y a la sécurité universitaire aussi qui devra entrer en ligne de compte. puisqu'il y a une police universitaire.
Police universitaire.
Quel est son rôle?
Qui doit veiller...
C'est de faire seulement le gardiennage ou bien de veiller aussi à toutes ces questions.
Parce qu'il y a des enseignants qui restent tard dans, au bureau. Là.
Mais
c'est pour faire quoi?
Effectivement. Veiller à une certaine sûreté dans les sites. Hein? Il y a des universités aujourd'hui... Qui ont des bars et qui ont même des
boîtes.
Des boîtes, des cadres non
qui favorisent,
la débauche. Et il suffit d'un petit rendez-vous entre l'enseignant et, qui vient poser le problème dans un bar. Vous imaginez, dans un bar. Mais au-delà de ça, il y a aussi les conditions infrastructurales des universités. Où est-ce que nos étudiants nous rencontrent généralement? C'est sous les arbres. C'est dans nos voitures. Mais un étudiant devra poser les problèmes dans un cadre approprié. De sorte que lorsque vous l'amenez dans un cadre inapproprié, il a le droit de refuser. Puisqu'il sait exactement que non, lorsque je dois vous rencontrer, je peux vous rencontrer dans un bar. Je vous rencontre
ou dans un hôtel.
Dans un hôtel,
des professeurs qui donnent des rendez-vous comme
et
ça.
Et il vous amène dans un hôtel où il y a une terrasse. Après, c'est une chambre. Vous voyez, pourquoi? Puisque le professeur lui-même n'a pas les conditions réunies pour vous accueillir. Et il utilise les faibles conditions qui sont les siennes pour vous exploiter.
Bien, un instant, on va accueillir Blaise Saïdi. Vous êtes à Kisangani. Bonjour. Blaise Saïdi, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro. Tagam, il est à Gati. Blaise Saïdi, bonjour, on vous écoute. Allô? Allô, Blaise? Ben, je pense qu'il doit avoir un souci avec son micro. Tagamile Agati Jonathan, vous êtes à Bounia, bonjour. Bonjour, Tagamile. Allô?
Oui, bonjour, cher Marcel, cher Jody.
Oui, Tagamile, quelle est votre question?
Bonjour, cher Jody Daniel.
Bonjour, on vous écoute. Oui, Tagamile, on vous écoute.
Je suis heureux que vous faites participer à ces niveaux et à ces points de débat.
Il y a beaucoup de bruit tout autour là, on ne vous capte pas comme il faut. Bon, je pense que ce n'est plus intéressant. Il y a beaucoup de bruit. On ne sait pas vous écouter convenablement. Gaston Gandou, vous êtes à Kin, bonjour. Allô, maître Gaston, bonjour. Il n'est pas joignable. Joseph Mbouama, depuis la ville de Kananga, bonjour. Bien, on me fait signe que Tagam, il est là. Merci d'ouvrir vos micros, parce que si les micros restent fermés, on ne sait pas vous entendre. Tagam, il est Jonathan. Vous êtes là?
Oui, je suis là, cher Marcel Ngombobal.
Non, c'est cher Jody, Daniel Kachama. Alors, vous écoute.
Cher Jody, Daniel Kachama.
Allez-y.
Oui, merci beaucoup pour cette thématique. Le jour où vous aborderez le sujet concernant les points tribalement transmissibles,
hein, ça, j'ai jamais entendu parler. Les points tribalement transmissibles. Ça, c'est du nouveau. Donc,
Oui. Alors, comme aujourd'hui, nous parlons des points sexuellement transmissibles, mon cher journaliste, je vais vous rassurer que ce n'est pas seulement lors de correction des papiers, non, c'est aussi lors des recours. Vous savez, quand les étudiants introduisent leurs recours, au niveau de leurs différentes facultés. C'est à ce niveau-là aussi que les animateurs facultaires profitent pour essayer de rassonner certaines étudiantes pour des faveurs sexuelles. Il y a trop de proxénètes comme ça dans ce secteur. Et même, il y a d'autres qui sont leurs chefs de promotion. Les CP aussi ont leur niveau de virulence à leur niveau. Vous savez que même pour envoyer l'horaire des cours pour certaines étudiantes, il y a des sollicitations à l'aide à ces sens. Alors, choses qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire, on doit aborder cette question sur tous les niveaux et voir donner les responsabilités à des personnes qui doivent justement répondre à cela. Je me dis, est-ce que le ministère de l'ESU est là et il est fait de nous suivre aussi, nos parlementaires? Est-ce qu'ils peuvent voter une loi comme ça qui peut justement essayer de juguler cette situation dans le milieu universitaire? Vraiment, c'était ça ma petite contribution.
Bien, merci Tagamilé depuis la ville de Bounia. Nous parlons des points sexuellement transmissibles. Joseph Mbouama depuis la ville de Kananga, bonjour. Allô? Polydor, je savais pas qu'il y avait des points tribalement tribalement transmissibles.
Oui,
ça, c'est une nouveauté ou ouais, ça existe ouais, déjà?
Ça existe. Nous avons des professeurs qui, face à une faiblesse, demandaient la liste des ressortissants de leur coin avant la correction.
Ah ouais?
Oui.
Et ils tiennent compte de ça dans la correction?
Ils se disent, nous sommes moins nombreux dans cette université. Ouais. Nous devons nous propulser. Alors, transmettez-moi la liste des étudiants qui sont de votre classe, comme ça, je vais les booster. C'est des pratiques comme ça liées à l'immoralité, puisqu'au fait, dans l'offre et la demande, l'enseignant est appelé à offrir la connaissance et l'étudiant est appelé à prouver qu'il a maîtrisé la connaissance qui lui a été transmise. En dehors de ça, il n'y a pas un autre critère qui devra influencer l'obtention des points en milieu universitaire. Mm. Malheureusement, pour des raisons subjectives, pour des raisons de faiblesse au plan psychologique et de manque de personnalité, les enseignants amènent des critères subjectifs liés à leur faiblesse. Et ça explique qu'on utilise les critères tribales, les critères sexuels, et ainsi de suite, pour justifier le fléau que nous déplorons aujourd'hui.
Donc, vous avez dit la solution, c'est déjà au niveau du recrutement.
Au niveau du recrutement. Doit... Aujourd'hui, il suffit que j'obtienne ma thèse à Kuala Lumpur et que je vienne. On demande à l'université, est-ce que cette thèse, ce diplôme est valable?
Oui, c'est valable.
On ne me pose pas la question, pendant mon séjour à Kuala Lumpur, qui est-ce que j'étais?
Comment je me suis comporté?
Oui. Peut-être que j'étais un délinquant, un dépravé. Mais on me prend, on me met à l'université. Et j'ai l'avenir des enfants d'autrui entre mes mains. Imaginez-vous. Donc celui qui est condamnable, c'est celui qui m'engage d'abord. Au-delà de moi. C'est celui qui m'engage. Donc à l'entrée, il faut vraiment beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde doit être professeur à l'université? Devenir professeur à l'université est devenu une opportunité à saisir pour préparer sa retraite. Ça ne devait pas l'être. Après avoir erré par-ci, par-là, on s'est dit, bon, que j'obtienne une thèse, et après, j'aurai ma retraite jusqu'à mes 80 ans. Non, ça ne devait pas être ça. On devait avoir des professeurs qui aiment, qui comprennent que l'enseignement est d'abord un apostolat. Voilà pourquoi la motivation ne serait pas la vente des syllabus. La motivation ne serait pas de créer les mains tendues aux enfants pour qu'ils viennent faire les points sexuellement transmissibles.
Mais quand ils font ça, est-ce qu'ils ne voient pas leur propre fille au travers de ces filles qu'ils harcèlent comme ça?
Et c'est comme ça que j'ai évoqué au départ qu'au-delà de tout, c'est la notion du fond psychologique. Il est inconscient. Il est dépravé mental, bien qu'on l'appelle professeur ordinaire.
Il doit être pris en charge.
Il doit être pris en charge, être accompagné. D'où ici la recommandation à certaines universités de pouvoir orienter certains professeurs vers les centres psychiatriques. Lorsqu'on sent qu'il y a
un écart. Prise en charge.
Oui, une bonne prise en charge. Lorsqu'on sent un écart entre ce qu'il devait être et ce qu'il est effectivement.
Oui.
C'est un cas. Il lui faut une prise en charge. Et qu'on ait des référencements comme ça, et les gens vont craindre. C'est une sanction implicite.
Et il semble qu'il y a
on apprend que professeur Polydor Tangeli a été référencé au CNPP pour...
point sexuellement transmissible.
Oui, parce qu'on sent qu'il est dépravé.
Il n'a plus ses
les autres professeurs vont craindre.
Oui.
On ne l'a pas suspendu. Non, on ne l'a pas suspendu. On l'a référencé au CNPP.
Au CNPP.
Ah. Les autres vont dire, non, je risque d'aller aussi au CNPP, non. Donc, il manque beaucoup de pratiques comme ça qui peuvent nous permettre de taire cette affaire, de diminuer. C'est lié à la nature humaine, bien sûr. On ne saura pas l'éradiquer puisqu'il y aura toujours des cas isolés qui vont apparaître. Mais si on s'y prend bien, on peut diminuer le taux. Et vous voyez les phénomènes apparaître après 5 ans de manière isolée.
Il semble que ce sont les jeunes assistants et les chefs de travaux qui sont, surtout les assistants, qui sont aussi passés experts dans cette pratique.
Bon, dites-moi qui vous êtes et je comprendrai pourquoi vous faites ça. Dites-moi qui vous êtes et je comprendrai pourquoi vous faites ça.
Oui.
Puisqu'au fait, aujourd'hui, un assistant doit savoir que l'étudiant qu'il a aujourd'hui en G1, c'est peut-être son futur collègue.
C'est ça.
Qui sera chef de travaux, comme lui aussi. Puisque tu as 30 ans de carrière, et toi tu commences à le faire pendant tes 5 premières années. Quel genre de personne tu seras? Quel respect ce futur collègue aura vis-à-vis de toi? Non. C'est des dimensions qui échappent à beaucoup d'employés. Puisqu'il faut se projeter dans les 10 ans, 15 ans qui viendront.
Oui.
Qui est-ce que tu seras?
Oui. On va accueillir Ben Oukila depuis le Nord Kivu. Bonjour Ben, vous êtes dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Oui, exactement, oui.
Vous êtes à Goma, je suppose.
Bonjour, bonjour Radio Kapi. Exactement, oui.
D'accord, on vous écoute Ben.
Alors, nous merci beaucoup. Nous remercions vraiment ce sujet, cette thématique du jour. Bon, bien que l'État a avancé, je voulais témoigner quelque chose.
Oui, vous capté? Oui, oui, on vous écoute, allez-y rapidement.
Ok, d'accord. Ah oui, donc j'ai un témoignage à faire. Je suivais une vidéo, en fait, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. En fait, le monsieur fut un assistant. Pourtant, dans son jeune âge, il avait fui une grossesse, si je le dirais ici en français simple. Et en fait, là où il s'est retrouvé, et il a fini ses études. En finissant les études, il a fait le doctorat, et il s'est retrouvé en fait assistant quelque part. Et pourtant, la fille qu'il avait acceptée avant, elle aussi s'était déménagée avec l'enfant. Et l'enfant était déjà à l'université. Et voilà. Lorsque l'enfant a grandi et il est allé à l'université, l'enfant s'est retrouvé devant la personne qui fut peut-être son papa, ne connaissant pas, le papa aussi ne connaissant pas, la fille aussi ne sachant pas. Et voilà, le papa a fait ce qu'il faudrait et il a fini par accepter, n'est-ce pas, sa propre fille. Et ce sont donc les conséquences de ce qui se passe dans nos universités. Alors, je passe vite à ma question. Je voulais juste te poser, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour éviter tout ce genre de choses qui se passent dans nos universités? Parce que moi-même, je suis étudiant et je sais qu'est-ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas même de proposer une loi dans l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'on propose une loi?
D'accord. Pour lutter contre ce phénomène-là. Merci beaucoup. Polydor Tangeli, est-ce qu'on peut...
Ben, la loi cadre existe. Le secteur universitaire est suffisamment réglementé.
Je pense que ça entre dans la loi contre les violences sexuelles.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a des lois connexes, hein, des lois connexes qui touchent à la question. Au fait, quand vous êtes dans le milieu universitaire, vous êtes dans la communauté sociale, hein, qui est réglementée, qui est régie par certaines lois. Il est question d'abord de doter, durant les séances de sensibilisation, toutes nos filles, hein, et de toutes ces lois-là, qu'ils comprennent de quoi il est exactement question. Pourquoi? Puisque la République démocratique du Congo ne souffre pas d'un cadre juridique pour être un pays digne.
On a des lois,
mais qu'on les active simplement, et qu'on ait les personnes qu'il faut à leur place.
Merci beaucoup, Polydor Tangeli. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du groupe Mossala, une structure qui s'occupe du travail.
Ouais.
Et vous êtes psychologue de travail aussi.
Exactement.
Merci d'avoir participé à cette émission pour échanger autour du phénomène point sexuellement transmissible. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, jeudi.
Bien, on va suivre dans quelques instants les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission. Il est 11h à Kinshasa.